This is Radio France International.
Paris, Arachi,
Europe, sur notre titulares.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec vous, Lydia Anjos de la rédaction lusophone.
Bonne nuit.
Vous nous parlerez des résultats des élections au Mozambique. Erwin Roumilac de la rédaction chinoise.
Ni hao.
Pour les mesures phares que prend Pékin pour relancer l'économie, son économie qui rencontre en ce moment des difficultés. Et pour la rédaction en espagnol, Ubaldo Bravo.
Buenas noches.
La répression contre les médias au Nicaragua, vous nous en parlerez. Au moins 278 journalistes ont été forcés de quitter le pays depuis maintenant 6 ans. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est la guerre que Israël mène au Hamas avec la mort de son nouveau chef et celle menée contre le Hezbollah au Liban. Et dans ces dernières opérations, des positions des casques bleus ont été visées, ce qui suscite de nombreuses critiques dans le monde. La dernière, c'est celle de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, qui estime à Beyrouth qu'il est inacceptable de viser les casques bleus. Car on ne touche pas aux soldats de la paix, ils sont 10 000 et de plusieurs nationalités. Hermine, il y a des Chinois.
Oui, il y a des Chinois. Mais par contre, eux, ils n'ont pas été touchés par les bombardements israéliens. En tout cas, il n'y a pas d'annonce de blessés, des soldats. Et par contre, il y a des vidéos aussi qui circulent sur les réseaux sociaux comme X ou TikTok. Donc, on en voit un où il y a un commandant qui raconte la vie de 22e détachement chinois de génie civil au Liban. Donc, il raconte avoir passé plus de 10 jours dans les bunkers du camp chinois situé à seulement 6 km de la ligne bleue, c'est-à-dire la frontière temporaire entre le sud Liban et l'Israël. Donc il a pu entendre quotidiennement le bruit des sirènes, des coups de feu et des bombes. Et les soldats chinois ont dû renforcer le stockage des matériels de protection, des équipements médicaux, de communication et aussi des protections des premières nécessités. Ainsi, aussi, ils ont mis un grillage en métal pour empêcher les attaques des drones sur leur base. En même temps, le gouvernement chinois a critiqué ces attaques israéliennes et a exprimé leur profonde inquiétude et ils ont aussi exprimé leur ferme condamnation face à ces attaques.
Encore une chose, quelles sont les principales missions des casques bleus, de ces casques bleus chinois dans le cadre de la FINUL?
Oui, justement, en fait, les forces intérimaire chinois au Liban a été déployé pour la première fois dans les zones de mission en mars 2006 et ils ont effectué plus d'une vingtaine de rotations. Tout à l'heure, j'en ai parlé de 22e, donc avec un total cumulé de plus de 700 soldats de la paix. Et selon un commandant adjoint, les casques bleus chinois effectuent, selon lui, des tâches les plus dangereuses et les plus lourdes, c'est-à-dire des minages et la construction des bâtiments et aussi des secours médicaux sur place.
Il y a aussi des Espagnols, hein, Ubaldo, depuis 2 ans maintenant, la FINUL dont l'Espagne est à la tête depuis 2 ans, hein, pour être précis, et la ministre espagnole de la Défense s'est exprimée.
Oui, tout à fait. La FINUL dont l'Espagne est à la tête depuis 2022 était au centre d'une discussion qu'il y a eu ce mercredi. La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a estimé qu'il est essentiel que la FINUL continue et que le seul à décider sur son avenir, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce message a été adressé au premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, qui a demandé de retirer les casques bleus présents tout au long de la frontière entre l'Israël et le Liban.
Et c'est le Conseil de sécurité qui décide, hein, de l'ONU. Néanmoins, l'Italie ne s'est pas abstenue de proposer un renforcement des soldats onusiens sur le terrain.
Déjà, la FINUL n'est pas du tout d'accord avec cette proposition. Le renforcement de la violence ne va pas du tout apaiser le conflit. En tout cas, c'est ce qu'a précisé son porte-parole Andrea Tenenti à notre collègue Melissa Barra.
I think at this point, firepower, not sure.
Tenenti mentionne qu'il n'est pas certain d'être en accord avec la proposition de l'Italie. Il ne pense pas que le renforcement de l'armée onusienne va résoudre ces problèmes. Il a rappelé que l'esprit de la FINUL est de maintenir la paix et donc c'est pour cette raison qu'il faut absolument trouver des solutions pacifiques et privilégier les canaux politiques et diplomatiques. Le porte-parole a aussi souligné que la FINUL doit rester ici pour aider la population locale et pour soutenir l'agence de l'ONU chargée de fournir des denrées alimentaires.
Alors l'Union européenne a organisé une réunion au sommet pour évaluer cette situation au Liban, Lydia, et à Bruxelles, le Premier ministre portugais a condamné le fait qu'Israël considère le secrétaire général des Nations Unies comme persona non grata, il a également jugé la position Tel Aviv complètement inappropriée, irrespectueuse envers l'Organisation des Nations Unies. Hein.
Exactement. Comme d'autres, il a déclaré des actions communes afin de stopper les crimes de guerre et contre l'humanité commis par l'armée israélienne à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Le premier ministre portugais, Luís Montenegro, a réagi à l'interdiction d'entrée en Israël qui vise António Guterres et estime que le traitement de persona non grata est totalement inapproprié et doit être annulé.
Alors que dit le Premier ministre portugais ?
Il dit qu'il a eu l'occasion de mentionner lors de la réunion du Conseil européen que les considérations qui ont été faites à l'égard du secrétaire général des Nations Unies ne constituent pas une attaque contre la personne du secrétaire général, mais plutôt une attaque contre le principe du droit international, du droit humanitaire et de la primauté de la force des organisations internationales.
Alors il y a une lettre ouverte rédigée par le Chili, signée par 104 États membres de l'ONU, qui exprime un soutien au secrétaire général des Nations Unies condamnant cette décision d'Israël. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie font toutefois partie des pays qui n'ont pas signé cette lettre, mais les pays de la communauté des pays de langue portugaise l'ont fait, Ligia.
Tout à fait. Au total, 104 pays ont exprimé des inquiétudes et des réserves concernant les actions d'Israël, notamment en raison de cette décision de déclarer António Guterres persona non grata. Cette situation a provoqué des tensions diplomatiques et plusieurs pays ont choisi de soutenir l'ancien premier ministre portugais en signant cette lettre de soutien.
Et la Guinée-Bissau ?
N'était pas sur la liste. Cette position a été interprétée premièrement comme un alignement sur la position israélienne. Cependant, la Guinée-Bissau a clarifié sa position concernant l'absence de signature de cette lettre et le gouvernement a expliqué que l'ambassadeur du pays n'était pas présent au moment de la signature, ce qui a conduit à l'absence de l'État sur cette liste des pays préoccupés par les déclarations israéliennes, tout en réitérant son soutien à Guterres.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation au sud Liban qui ne cesse bien évidemment d'évoluer. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Avec Ubaldo Bravo de la rédaction en espagnol, intéressons-nous maintenant à la situation des journalistes au Nicaragua. Dans ce petit pays d'Amérique centrale, au moins 278 d'entre eux ont fui la dictature de Daniel Ortega depuis 2018, année où s'est déroulé un mouvement de contestation qui a enflammé le pays.
Oui, Philippe, depuis cette année-là, Daniel Ortega intensifie la répression contre les critiques de son régime. Des dizaines de médias ont fermé et des centaines de journalistes ont dû changer de métier pour assurer leur sécurité. Et 278 d'entre eux ont même pris le chemin de l'exil. C'est ce que dénoncent les derniers rapports de la Fondation pour la liberté d'expression et de la démocratie, ONG basée au Costa Rica.
Le Costa Rica, justement, c'est là que 200 000 Nicaraguayens se sont réfugiés depuis 2018.
Oui, c'est dans ces pays voisins que de nombreux critiques du régime ont trouvé refuge, parmi eux la journaliste Wendy Quintero, qui nous a raconté les raisons qui l'ont poussée à l'exil. Écoutons-la.
Sí, mira, la verdad es que desde el 2007 comenzó una sistemática.
Wendy Quintero raconte que ce n'est pas depuis 2018 que la liberté de presse est en danger. C'est bien avant, depuis 2007.
Depuis que Daniel Ortega est au pouvoir au Nicaragua ?
Exactement. Elle assure que pendant ces années, le gouvernement a installé progressivement une censure systématique contre la presse indépendante. Il a modifié les lois pour valider la censure et justifier les emprisonnements. Les journalistes subissent un harcèlement constant qui les force à partir du pays. Et une fois qu'ils ont trouvé un refuge à l'étranger, le gouvernement va jusqu'à leur retirer leur nationalité. D'ailleurs, Wendy Quintero a souligné deux lois contre la liberté de presse. La première, c'est une loi qui légalise la censure sur les réseaux sociaux. C'est simple. Si le gouvernement dit qu'une information n'est pas vraie, il a le droit de punir immédiatement les journalistes en cause, mais pas seulement les journalistes. Il en va de même pour les églises, les ONG, les entrepreneurs, bref, tous les critiques du gouvernement.
Et ce gouvernement qui, au mois d'août, a fermé 1500 ONG en une seule journée pour des raisons financières, mais au fond, il s'agit de la même méthode utilisée contre les journalistes.
Des méthodes complètement illégales qui rendent compte du puissant contrôle du régime, d'après Wendy Quintero. Et la deuxième loi, c'est la loi sur la cybercriminalité qui cherche à punir les journalistes en exil. Oui, vous l'avez bien entendu, punir hors les Nicaragua. Écoutons-la. C'est très inquiétant car Ortega renforce les méthodes pour intimider les journalistes, a dit Wendy Quintero. Ceux qui sont au pays peuvent passer 5 ans en prison juste pour avoir publié des critiques sur les réseaux sociaux. Et pour punir ceux qui critiquent le régime depuis l'exil, les gouvernements cherchent leur extradition. Mais Wendy Quintero considère qu'il s'agit d'un rêve d'Ortega. Elle est sûre que jamais aucun pays validera l'extradition d'un journaliste au Nicaragua. Bien au contraire, elle précise que la communauté internationale est plutôt enclin à veiller à la sécurité des opposants.
Ubaldo Bravo de la rédaction en espagnol de RFI. Ces dernières années, il a souvent été question de l'insolente santé de l'économie chinoise. Mais les cycles sont ce qu'ils sont et aujourd'hui, la croissance inexorable du pays est en passe de devenir un souvenir. Hermine Roumilac de la rédaction chinoise. On apprend ce vendredi qu'entre juillet et septembre, la Chine a enregistré une croissance de seulement 4,6%.
Oui, vous dites seulement, mais c'est bien pour la France peut-être, mais autrement dit, en Chine, c'est le rythme le plus lent depuis le début de l'année 2023. Même si les chiffres de la consommation et de la production industrielle ont dépassé les prévisions en septembre, ce soi-disant mauvais résultat n'est pas une surprise pour le marché. Quand on regarde la faiblesse de la demande intérieure, le marché de l'immobilier, qui était pendant plus de 20 ans le pilier de l'économie chinoise, toujours en difficulté, et on ajoute le ralentissement de la croissance des exportations. Donc, je disais, l'effondrement du secteur de l'immobilier, il reste et restera pendant longtemps un défi majeur pour Pékin.
Et le gouvernement chinois reconnaît désormais que son économie a rencontre de grosses difficultés.
Tout à fait rarissime. Et c'est d'autant plus surprenant que c'était annoncé quelques jours seulement avant le 75e fête nationale. En plus, le président chinois a l'ambition, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, de relever le merveilleux rêve de la grande renaissance de la nation chinoise. On se demande si ce rêve n'est pas en train de s'éloigner petit à petit. Puisque depuis la fin de ce cauchemardesque politique de zéro Covid, au lieu de connaître un rebond économique, la Chine a dû faire face à un ralentissement et des crises simultanées, probablement uniques au monde, puisque on peut citer les prix de la consommation sont proches de la déflation, l'offre des logements est excédentaire, et le chômage des jeunes a grimpé en flèche vers 25% selon le chiffre officiel. Sans oublier le vieillissement de la population et les crises démographiques causées en partie par la politique de l'enfant unique, on peut ajouter dans cette liste la guerre commerciale avec les États-Unis et les relations refroidies depuis quelques années avec les pays occidentaux pour des raisons multiples.
Alors ça, c'est le constat. La réaction maintenant, le gouvernement chinois a lancé une série de mesures pour relancer la machine.
Tout à fait. On peut décrire ces mesures en deux mots, intense et inattendue. D'abord intense, dans le sens où tous ces secteurs clés de finance et de l'économie du pays, y compris la Banque centrale, la Commission des régulations du marché de valeurs mobilières, le ministère de logement et de la construction, la Commission de développement et des réformes et le ministère de finances, ont annoncé tous des mesures de relance. Le marché boursier a connu en une semaine de la montée et des chutes records depuis 20 ans. Donc, qualifié par des observateurs des montagnes russes, donc il faut avoir un cœur très fort. Et inattendu aussi parce que la Banque centrale a introduit un nouvel outil de relance permettant aux banques de prêter de l'argent aux entreprises pour qu'elles puissent racheter leurs propres actions. Cela constitue un changement radical, selon les experts, par rapport au style de gouvernement chinois antérieur qui a vu Pékin favoriser plutôt les investissements dans les infrastructures ou les subventions au secteur manufacturier.
Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat avec ces mesures?
À court terme, les mesures sont tout faites pour garantir le 5% de croissance annuelle fixée par l'État. Donc certains disent que c'est comme si on injecte une potion magique dans le corps d'un malade en soins intensifs pour qu'il puisse aller danser dans une boîte de nuit. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. À long terme, quelles sont les conséquences négatives juifs, s'il y en a, on ne sait pas non plus. Pour l'économiste chinois basé à Washington, M. Li Renqing, il pense que non seulement le peuple chinois va payer, mais le gouvernement pourrait aussi payer très cher. On l'écoute.
Que dit-il en résumé?
Alors, ils disent que, j'ai constaté que ce sont plutôt des jeunes gens qui ont rentré massivement récemment sur le marché boursier. Au lieu d'être riches, ils sont plutôt désespérés, qui voient soudain dans le marché une lueur d'espoir pour être riches. Ils ont donc commencé à investir des fois avec d'emprunt sur le marché. S'ils perdent l'argent, alors le gouvernement va perdre plutôt la confiance du peuple qui va le détester et qui va considérer le gouvernement comme incompétent ou mauvais. C'est en fait la dernière chose que le président chinois, M. Xi Jinping, veut voir derrière cette crise économique. On peut attendre une crise politique ou une crise sociale. Et il a dit aussi que probablement, si pour résoudre toutes ces crises, on n'est pas loin de, pour lancer l'économie, de lancer plutôt des actions militaires ou diplomatiques. En tout cas, tout ça, ce n'est pas exclu, selon lui.
Pour conclure, la fameuse méthode du chat noir, chat blanc, celui qui attrape souris est un bon chat.
Ça ne marche plus. Après 40 ans d'histoire, la Chine a profondément métamorphosé. Donc maintenant, ce qu'il faut pour relancer l'économie, c'est qu'il faut une profonde réforme structurelle et du modèle de croissance économique à long terme. Mais tout cela, est-ce que M. Xi Jinping va l'entendre? Ce n'est pas sûr.
C'était Hermine Roumilac de la rédaction chinoise. Les Mozambicains ont voté le 9 octobre dernier pour élire leur président, leurs députés et leurs gouverneurs régionaux au pouvoir depuis un demi-siècle. Le Frelimo est en tête des résultats et Ligia Anjos, de la rédaction lusophone, l'opposition conteste déjà le processus, dénonce des fraudes et des irrégularités.
Exactement, selon les résultats partiels, Daniel Chap, le candidat du Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975, qui peut succéder à Philippe Nyusi à la tête de l'État. Comme d'habitude, les membres du parti au pouvoir ne se sont pas prononcés jusqu'à présent, mais des sources de cette force politique assurent que le scrutin s'est déroulé sans incident. Une vision qui n'est pas partagée par le consortium électoral plus d'intégrité, qui est composé par sept organisations de la société civile qui dénoncent et qui fait savoir que les élections n'ont pas été libres, ni équitables, ni transparentes.
Mais une fois, comme un pays,
que dit Edson Cortés?
Il affirme qu'encore une fois, les élections ont été frauduleuses et que les résultats préliminaires ne reflètent pas la volonté des électeurs. Il nous explique avoir suivi le décompte des voix et que le candidat de la formation d'opposition Poudem, Juvenal Siumondlan, a gagné dans plusieurs circonscriptions avec un avantage considérable. Ces derniers jours, plusieurs manifestations ont eu lieu et peuvent encore s'aggraver si les résultats ne sont pas perçus comme justes.
Oui, manifestation d'ailleurs mercredi à Nampula, c'est dans le nord du Mozambique, et la police est intervenue pour disperser des centaines de partisans de l'opposant Venancio Mondlane. Il s'agit déjà d'une figure montante de la politique qui revendique sa victoire depuis le scrutin.
Exactement, l'acte qui a abouti à l'intervention de la police a eu lieu dans la ville de Nampul, dans ce fief de l'opposition. Il y a eu 3 blessés par balle, 12 détenus. Le bilan de l'action policière lors de cette marche organisée par des membres des partis d'opposition. L'un des candidats de l'opposition, Venancio Mondlane, appelle à une grève générale lundi prochain, dans 3 jours, pour dénoncer des fraudes électorales massives.
Quand forem 0 horas do dia 20, qui est domingo.
Alors que dit le candidat de l'opposition?
Il appelle à la grève nationale lundi prochain, promet de paralyser les activités publiques et privées sur tout le pays. Venancio Mondlane accuse le parti au pouvoir d'avoir orchestré une opération de bourrage d'urnes alors qu'il est certain d'avoir gagné. Les membres de la Renamo à Nampula, qui a toujours été le principal parti d'opposition au pays, exigent la démission du président du parti et candidat à la présidentielle. Ils estiment que c'est le seul moyen de sauver l'image du parti dont les résultats relèguent le parti peut-être à une 3e place de l'échiquier politique.
Et on en saura plus autour du 24 octobre, hein, puisque c'est la date annoncée pour ces résultats définitifs de ces élections. C'était Lydia Anjos de la rédaction lusophone de RFI et c'était Action du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet et sur l'appli de Radio France Internationale.